Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Fréquence Mistral Digne aujourd'hui. Trois invités pour une émission spéciale autour de lire et faire lire et du prix poésie. J'ai le plaisir d'avoir sur cette antenne Sandrine Berger, chargée de mission à l'UDAF, également Isabelle Zoulalian, bénévole lire et faire lire, et Marie-Ange Giuseppi, bénévole lire et faire lire également, qu'on a déjà interviewé, assisteront, et même sur cette antenne, vous étiez venus. Bonjour à toutes les trois, et puis ben, on va faire une émission spéciale autour de lire et faire lire et du prix poésie. On commence avec vous, Sandrine Berger,
oui, bien
de l'UDAF.
Sûr. Donc bonjour à tous. Oui, effectivement, donc sur l'UDAF 04, donc l'Union départementale des associations familiales du 04, nous coordonnons depuis une vingtaine d'années un dispositif national qui s'appelle Lire et faire lire, qui est né à l'initiative d'un écrivain qui est quand même relativement connu, hein, Alexandre Jardin. Et sur ce prix poésie, donc c'est une initiative que l'UDAF suit depuis plusieurs années, en fait. Alors, on a des interventions avec nos lecteurs bénévoles amateurs sur différents types de structures. Ça part de la crèche actuellement jusqu'au collège à peu près. Et on a plaisir chaque année à proposer par l'intermédiaire donc des lecteurs qui interviennent une participation sur ce prix poésie qui est mis en œuvre donc par l'Association nationale conjointement au prix poésie. Donc c'est une sélection de livres qui est choisie, qui est proposée aux différentes coordinations, et les lecteurs, dans leur mission, vont proposer ces ouvrages-là. Donc il y a une sélection de 4 à 5 livres chaque année, vont les proposer, et ce sont les enfants, en fait, qui vont, par rapport à leur choix, à ce qu'ils ont aimé, proposer, choisir quelque part le livre pour lequel l'auteur et illustrateur sera récompensé en fin d'année sur ce prix-là. Donc c'est quelque chose qui existe depuis une bonne dizaine d'années sur l'Association nationale Lire et faire lire et que nous on suit depuis, je dirais, 5-6 ans à peu près, avec plus ou moins souvent les mêmes lecteurs qui interviennent sur ce type-là, parce que peut-être plus sensibles à la poésie, plus sensibles à avoir envie de faire participer les enfants sur ces choix-là. Donc c'est aussi par rapport aux missions que l'UDAF et Lire et faire lire semaine se portent, de l'idée de permettre aux enfants de découvrir tout ce champ-là, tout ce champ de la poésie, hein, qui a bien évolué depuis que nous on était à l'école. Hein, c'est beaucoup très différent aujourd'hui, donc leur faire découvrir ce champ-là et puis les faire s'exprimer aussi sur ce qui les touche et ce qui leur plaît dans les ouvrages qui leur sont proposés. Alors aujourd'hui, effectivement, donc avec Marie-Ange, vous allez avoir un type d'activité de présentation, puisqu'elle intervient, elle le dira elle-même, sur un public particulier. Et avec Isabelle, ça sera sur un tout autre public. On va passer d'élèves sur l'école primaire à des enfants qui sont des pré-ados et qui ont une approche certainement très différente de ce qui leur est proposé, et puis une façon de le recevoir aussi, qui leur est à chaque fois particulière.
Donc on en parlera tout à l'heure. On va peut-être enchaîner directement avec la lecture des enfants. C'était dans une classe de CM1 à Volonne récemment. Et on reviendra avec vous, Marie-Ange, pour parler de cette aventure. On les écoute.
Bonjour, nous sommes Van et Cali, élèves de CM1 à Volonne. Nous allons vous présenter 4 albums qui vont concourir pour le prix Poésie, Lire et faire lire. C'est Marie-Ange, lectrice de cette association, qui nous les a apportés. Vous allez d'abord écouter Camille et Léni qui vont vous parler de l'album qui porte le nom de Maison.
L'autrice et illustratrice de cet album s'appelle Isabelle Simler. Elle est diplômée des arts décoratifs de Strasbourg. Elle a travaillé plusieurs années dans le domaine de la publicité et du dessin animé en tant que réalisatrice, scénariste et illustratrice. Depuis 10 ans, elle se consacre pour son plus grand plaisir à la littérature jeunesse.
L'album Maison est sorti en 2022. Il est consacré aux maisons de différents animaux à travers le monde. Chaque instruction est présentée sur une double page. D'un côté, les détails avec le texte inclus dans l'image, et de l'autre, une vue plus générale. Ou alors, une seule image sur les deux pages. Notre préféré, c'est Royal en altitude, de l'Aigle Royal. Il y a de belles illustrations, des superbes montagnes et des beaux paysages. L'aigle est au premier plan. Ses dessins sont faits avec des traits super fins et très colorés. Le poème est très beau. Lenny va vous le lire.
Royal en altitude de l'aigle royal, j'ai édifié mon aire dans le creux d'une paroi escarpée. Inaccessible sous une corniche, je trône en majesté. J'ai une vue plongeante sur mon royaume panoramique, et si je repère une proie, je fonds sur elle à pic.
Maintenant, Loan et Lena vous présentent l'album Monsieur Personne.
Cet album est écrit par Joanna Concejo et elle a aussi fait les illustrations. Joanna est née en Pologne en 1971. L'album Monsieur Personne a été d'abord publié en Italie, puis en France en 2022.
Le thème est particulier, il y a du mystère sur chaque double page. Le texte est court, mais les images ont beaucoup d'importance car elles font un peu rêver. Nous avons beaucoup aimé ce livre.
Personne ne remarque Monsieur Personne. Il vit dans un univers triste.
Mais Monsieur Personne a un travail secret et très important. Lisez le livre pour le découvrir.
Voici Elie et Naël qui vous parlent de l'invention des dimanches.
Cet album est écrit par Gwenaëlle Abolivier. Pendant 20 ans, elle a été reporter radio pour France Inter. Passionnée par la mer, elle voyage beaucoup. Aujourd'hui, elle privilégie l'écriture littéraire et documentaire. L'album « L'invention des dimanches » publié aux éditions du Rouergue est très particulier. Il explique la vie des marins sur les gros bateaux porte-containers. Il commence au jour J et se termine au J plus 63.
Dans ce livre, Marie Détré a une façon particulière de dessiner. Elle remplit les surfaces avec de petites hachures. La précision dans ses traits est magnifique. Ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est la salle des machines. Il y a plein de couleurs et des formes très précises. Là où on remarque qu'elle s'est le plus appliquée, c'est sur les paysages. La précision sur les paysages est incroyable. C'est magnifique la façon de dessiner les nuages de la fumée ou de l'aube. Il y a aussi la mer qui est magnifique. À la page J plus 5, elle dessine tous les moments de la journée. Ellie va vous lire le texte qui va avec.
J plus 5. Ce matin, l'atmosphère est pleine de poussière marine. À midi, le second commandant a annoncé. Cette nuit, c'est changement d'horaire. Quand on traverse l'Atlantique vers les Antilles, on enlève des heures à sa montre. Après le déjeuner, dans le carré d'équipage, des hommes font une pause. En short et en tongs, ils regardent un film ou jouent aux échecs. De la cuisine monte une odeur de gaufre. Le navire paraît faire du surplace, mais il tremble et vibre. Il ne dort pas, il ne dort jamais.
Comment mettre une baleine dans une valise? C'est le titre de l'album que vous présente Sacha et Nolan.
Comment mettre une baleine dans une valise? C'est un titre très bizarre et ce qu'il raconte, c'est très inattendu. L'auteur au texte s'appelle Guridji. Il a aussi fait les illustrations. Il a écrit ce livre en espagnol et c'est la maison d'édition Côte 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 qui l'a traduit en français.
C'est l'histoire d'un personnage qui doit faire un long voyage mais il ne sait pas où il va. Il est triste et il veut amener sa baleine avec lui. Il va trouver une astuce mais vous devrez lire le livre pour la connaître.
Cet album est très éducatif parce qu'il y a des choses tristes et des choses rigolotes.
Merci de nous avoir écoutés sur Fréquence Mistral. Nous espérons que ça vous a plu et donné envie de lire ces albums poétiques.
Voilà, c'était donc la classe de CMA à l'école primaire de Volonne. C'est un enregistrement qu'on avait fait au mois d'avril. Marie-Ange, donc Giuseppe, si vous voulez nous raconter un peu cette aventure avec cette classe notamment. Donc vous êtes bénévole depuis quelques années à Lire et Faire Lire.
Tout d'abord, je vous remercie d'être venu faire ces enregistrements et puis passer le temps qu'il fallait pour que les choses se passent au mieux. Ça fait plusieurs années que je présente les albums du prix Poésie aux enfants à qui je lis. Et cette année, on a eu envie de comment dire, d'en faire profiter un plus grand public. Et donc, les élèves de CM1 ont choisi de présenter chaque album. Franchement, c'est vrai que les albums de cette année, ils sont assez particuliers parce que, bon, on pourrait dire où est la poésie pour certains, parce qu'ils abordent des sujets pas toujours simples. Et puis, pour deux d'entre eux en particulier, donc Monsieur Personne et puis Comment mettre une baleine dans une valise, le texte est intimement lié à l'image et on peut pas les séparer. C'est vraiment l'album qui fait un tout. Et c'est vrai que avec Isabelle, justement, on s'était un peu posé la question comment présenter ces objets livres un peu particuliers. Et puis, comme souvent, enfin, moi, j'ai eu vraiment de très bonnes surprises parce que les enfants ont été très sensibles au message que portent ces albums. Ils se sont attachés à plein de détails que moi, j'avais pas forcément vus. Et finalement, le choix de chaque binôme pour présenter un album s'est fait assez facilement parce que voilà, chacun était plus ou moins attiré par des styles un peu différents. Donc, ben, je ne sais pas si je présente un peu plus en détail ces livres.
Oui, ce serait très, voilà. Très bien.
Les enfants ont commencé par Monsieur Personne, je crois. Alors, Monsieur Personne, c'est vraiment, oui, l'exemple type où l'image prévaut presque sur le texte. Il y a des... Bon, ça parle bien sûr de la solitude et des gens qu'on ne voit pas trop dans notre société, à tel point que des enfants l'ont remarqué sur certaines illustrations, Monsieur Personne est transparent. Et derrière un texte très, très banal, on pourrait dire, hein, par exemple, « Monsieur Personne ne fait rien d'extraordinaire. Il passe de longues heures derrière sa fenêtre, lit son journal, mange sa soupe tout seul, fait sa lessive, sa vaisselle, arrose sa plante, reprise ses chaussettes trouées. Bref, il ne fait rien. » Voilà. Donc, si je vous lis ça, ça vous paraît un peu banal. Mais en fait, bon, évidemment que je vous invite à regarder, enfin à acheter ou à emprunter l'album pour regarder les images, parce que face à ce texte qui parle vraiment de choses très banales, il y a des images complètement oniriques qui nous emmènent dans l'intime de ce personnage. Et puis, bien sûr, bon, je révèle pas le secret de ce monsieur et son rôle particulièrement important, sur lequel les enfants ont eu aussi des réactions et des hypothèses très... très, très intéressante par rapport à la relation qu'on a aux personnes disparues, comment on peut les faire continuer à vivre dans notre mémoire. Enfin, c'était vraiment une expérience très, très, très riche qu'on a eue autour de cet album, même si au premier abord, il ne paraît pas très, très, très simple.
Les illustrations sont magnifiques, hein.
Oui, voilà.
C'est vraiment des œuvres d'art. Hein, ouais.
C'est assez en rapport, on pourrait dire, avec Magritte, avec la manière de peindre de Magritte et d'ouvrir vers un univers complètement onirique. Voilà. Donc, alors ensuite, si on passe à l'album Maison de Isabelle Simler, ce qu'il a de particulier, cet album, c'est qu'on pourrait dire que c'est un album documentaire, puisqu'il fait le tour des différentes maisons d'animaux à travers le monde. Mais elle réussit l'exploit d'écrire des textes poétiques qui sont à la fois documentaires. Et c'est ça qui a vraiment séduit les enfants. Enfin, vous avez dû entendre Léni, il était particulièrement enthousiasmé par cet album-là. Et donc, bon, pour tout vous dire, c'est celui qui a été pour lequel les enfants ont voté en majorité, parce que voilà, il est plus classique, il est plus sécurisant. C'est vrai que les illustrations sont magnifiques aussi. Alors, pour vous parler de l'invention des dimanches maintenant, c'est le seul qui est construit à quatre mains, c'est-à-dire pour lequel l'illustratrice n'est pas l'autrice. Donc, ce livre, c'est vrai qu'il nous emmène à travers les océans du monde, puisqu'il parle de la vie des marins sur un grand porte-container. Et là, effectivement, les textes sont assez poétiques en eux-mêmes, mais le choix de l'illustratrice d'illustrer avec vraiment différents types de hachures et beaucoup de couleurs très, très vives, ça permet de supporter un peu la monotonie de ces jours qui passent. Et l'autrice, elle a voulu aussi montrer ça en expliquant que il y a beaucoup de périodes qui sont assez monotones. Les marins donc décident que un beau jour c'est dimanche parce que voilà, on n'a pas grand chose à faire, le temps est calme et on peut se poser et prendre du temps pour soi. Voilà. Et en même temps, elle donne de très belles descriptions de l'horizon, de la mer, etc. Et les illustrations, ils font écho et c'est vraiment aussi un album très, très, très riche. Alors, si je passe donc au dernier qui a été cité, avec un titre un peu particulier, « Comment mettre une baleine dans une valise ?» celui-là, donc, c'est l'auteur qui a aussi fait les illustrations, Guridi, qui est d'origine espagnole. L'album, il a aussi été traduit en anglais avant d'être traduit en français par les éditions belges. Donc, on a vraiment quelque chose d'européen, là, autour de ce livre. Et donc, là, même chose, c'est un texte assez pudique, assez mystérieux. Effectivement, la question principale, ça semble d'être, comment faire rentrer une baleine dans une valise. Mais quand même, derrière, il y a évidemment le thème de l'exil et de cette injonction de partir. Je vais vous en lire un petit extrait, je vais vous lire le début. J'ai décidé de faire un voyage. Ce sera un long voyage, très long. C'est pourquoi j'emporterai ce que j'aime le plus, ma baleine. Ma baleine est grande comme toutes les baleines, et ma valise est petite comme toutes les valises. Les baleines n'aiment pas les valises. Elles aiment la mer immense et bleue. Moi non plus, je n'aime pas les valises. Je ne sais jamais quoi y mettre et je crois toujours que j'oublie quelque chose. Mais cette fois, ce sera différent. Cette fois, ma baleine vient avec moi. Voilà, et donc, avec les enfants, on a eu toute une discussion sur pourquoi c'est si important d'emporter avec soi... c'est cet animal. Alors bon, on pourrait dire il aurait pu choisir autre chose comme doudou, mais voilà, il se trouve que c'est ça. Et vraiment, ça a permis d'avoir quand même une discussion sur pourquoi on peut être obligé de partir de chez soi très vite, très loin. Voilà, et si je vous lis la dernière page du livre, il y a plein d'autres personnes avec des valises, sans destination. Pour le moment, elles savent seulement, comme moi, qu'il faut partir. Voilà. Et comment il a mis la baleine dans sa valise, effectivement, je vous laisse le découvrir. Voilà, donc vraiment une belle expérience et qui a été encore enrichie par cette perspective de devoir enregistrer ce qu'on a ressenti, d'écrire un minimum l'album pour que les auditeurs comprennent de quoi ils parlent. Donc vraiment, ouais, c'est une belle expérience et je remercie les enfants en particulier et puis vous et tous les adultes qui nous ont aidés.
Merci Marie-Ange. On va passer donc à Isabelle Zoulalian, donc bénévole depuis quelques années à Lire et Faire Lire. Actuellement, donc, vous intervenez au centre socio-culturel La Marelle à Saint-Auban. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est La Marelle peut-être et puis enchaîner avec ce que vous y faites, bien sûr.
Le centre socio-culturel est un centre qui s'adresse aux habitants de Saint-Auban et de la commune et alentour pour favoriser le lien, le contact, le lien social surtout. Il s'adresse aux familles et à toutes les générations et favorise le lien intergénérationnel. Donc ça, on se retrouve avec Lire et Faire Lire dans cette perspective du lien intergénérationnel qui est aussi une des dimensions de Lire et Faire Lire, puisque les lectrices sont plus de 55 ans, enfin voilà, hein, si je me trompe. Voilà, donc moi, ça fait une expérience récente avec ces collégiens qui viennent le mercredi après-midi à l'accueil aide aux devoirs, qui se déroule en plusieurs temps. Un premier temps où ils sont effectivement aidés par d'autres bénévoles sur la question des devoirs, et où il a été proposé de pouvoir leur proposer un temps de lecture après ce temps scolaire. Donc je ne suis pas dans la même perspective que Marie-Ange sur quelque chose de très structuré, mais sur une proposition souple, où la seule rigueur, effectivement, est l'horaire, en fin de compte, le temps, la durée d'une demi-heure qui m'est proposée, après quoi ils font goûter et jouer. Il y a aussi beaucoup de jeux de société ou de jeux en extérieur. Donc je m'adapte à ce contexte-là et aussi au contexte de ces jeunes de... L'année dernière, ils avaient 12 ans, et qui se sont transformés à une vitesse fabuleuse, puisqu'ils sont
avec la lecture.
Non, enfin peut-être, mais qui se transforment parce que ce sont ils deviennent des adolescents.
Oui,
voilà, et que je vois comme quand je travaillais en crèche, je voyais les bébés se transformer d'une séance sur l'autre, et je le vois grandir, muer, se changer de coiffure. Enfin, c'est impressionnant, mais ça, je dis ça, c'est peut-être anecdotique, mais c'est pour souligner aussi l'état dans lequel ils sont pour réceptionner une lecture, où je vais avoir le sentiment qu'ils ne sont pas forcément toujours très communicatifs sur ce que ça leur fait, mais parce qu'aussi ils sont en train de retirer une certaine peau, la peau de l'enfance, pour aller vers la question « qui suis-je ?» Et continue à se construire. Donc c'est une période très, très sensible, en fait, pour eux. Et c'est à respecter. Et je pense que l'expérience avec les tout-petits m'a beaucoup aidée pour accepter de ne pas être dans un échange aussi facile que celui qu'on peut avoir avec des enfants dans un autre type de cadre, comme l'école et... dans un projet scolaire, partagé avec un projet scolaire, et puis sur une autre tranche d'âge, finalement.
Oui, parce que vous êtes intervenue d'abord dans une crèche.
Voilà, pendant 5 ans, je suis intervenue à la crèche de Vologne.
Effectivement, le changement est assez radical.
Il est radical parce qu'on se dit « Ah, des tout-petits et ah, des pré-ados ». Je pense que cette expérience des bébés a été très utile parce qu'effectivement, un peu tout-petit... des bébés et des tout-petits, ça n'est pas forcément non plus bien sage, bien assis à son pupitre. Ce sont voilà, des enfants qui peuvent faire plusieurs choses en même temps, dont on peut avoir l'impression qu'ils n'écoutent pas, alors qu'en fait, ils écoutent et qu'ils ont beaucoup d'intérêt. Et c'est la même chose, en fait, avec le public plus grand. Donc, ça me passionne, en fin de compte, finalement. Moi, je les trouve assez volontaires, même si effectivement ils ne sont pas, ils ne le manifestent pas, mais ils sont là, ils reviennent à chaque fois. Ils acceptent, s'ils sont en train de jouer au ballon ou au ping-pong, de venir s'asseoir dans des espaces conviviaux qui existent, même si les espaces sont plus ou moins, concentrés à la Marelle.
Comment ça se déroule alors, puisque une demi-heure c'est assez court?
Oui, alors j'ai des choix. En fait, on parlait du prix poésie aussi. Je fais partie effectivement des lectrices qui ont un goût et un intérêt particulier pour la poésie. Et je leur propose, on a beaucoup d'ouvrages en littérature jeunesse autour de la poésie avec une approche qui peut être très ludique. Voilà, Je suis une. j'ai suivi les formations que nous propose Lire et Faire Lire avec des auteurs, notamment Bernard Friot, qui va revenir sur Manos bientôt, avec lequel on va faire de nouvelles formations et qui nous donne des outils pour pouvoir pas seulement être dans la lecture, mais aussi dans une approche plurielle et participative, en fait, les faire jouer avec les mots, les faire jouer avec, avec les phrases. Et voilà. Alors, parfois, je suis plus inspirée que d'autres fois. Mais ça fonctionne. Et puis, il y a aussi des textes courts. J'étais beaucoup à la recherche de textes courts. Parce que lire un roman, c'est trop long. Des histoires un peu longues, je les fais. Mais c'est difficile de tenir sur la durée, 5, 6, je viens une fois par semaine. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que les choses elles soient variées. Donc je multiplie les possibilités finalement en texte court, en suivi en 3 ou 4 fois. Là, ce projet... C'est la première fois, moi j'apprends beaucoup en écoutant Marie-Ange, on apprend entre nous, hein. On se forme à chaque fois, donc c'est très utile pour moi d'écouter ce que Marie-Ange avait à dire, parce que ça me donne d'autres perspectives pour une prochaine année sur le concours de poésie, sur le prix poésie, aussi pour l'approcher avec ce public-là.
Alors vous avez apporté aussi des livres, si vous voulez nous en parler.
Alors, ça n'est rien que je ne l'aurais pas encore lu, mais en fait, au début de l'année, comme j'étais partie sur la poésie, je leur avais demandé d'écrire qu'est-ce que c'était pour eux la poésie. On l'a mis dans une enveloppe sur laquelle ils ont mis leur nom, puis je conserve ça, puis je le ressortirai, je leur redemanderai un peu à la fin de l'année si de reformuler, en fait, leur réponse à cette question. Et là, j'ai trouvé, pendant le printemps de la poésie, un ouvrage qui s'appelle « La poésie Kezako ». Donc, par Thomas Vidon et Marc Majewski, chez Gallimard Jeunesse. Il y a une très belle illustration. Il y a plein de possibilités de réponse à cette question. Et chacun peut inventer. Donc, on a une première illustration. On a un enfant qui a fait une cabane avec des couvertures. Et le texte, c'est « Et si elle était un passage secret, parfois raccourci, parfois détour, pour apprendre à se perdre ?» Voilà, on peut encore...
Ça rappelle bien mon enfance, en tout cas, des cabanes avec des couvertures. Je pense que
oui,
beaucoup d'enfants ont fait ça. Il n'y a rien de plus passionnant que de créer sa cabane.
Oui, c'est vrai que... C'est comme tu disais, c'est une piste, un moyen pour entrer en communication avec l'imaginaire des enfants et pour faire que les mots du poème prennent sens dans ce cadre-là, quoi. C'est ça qui est un peu magique, quelquefois.
Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est « Dans un arbre ». On a pas mal travaillé autour des arbres, autour de l'environnement, dans les thématiques. Hein. J'ai aussi des thématiques. Et il y a un petit garçon qui parle avec un petit rouge-gorge. Et le texte, c'est « La poésie pourrait-elle être une question ? Un secret qu'on ne peut garder véritablement qu'en le partageant ?» Voilà, donc on a...
Oui, on a une autre dimension de la poésie, ce côté intime qui parle à chacun, en fait, mais qu'il faut aussi laisser entrer en soi. Et je pense que, bon, peut-être... plus particulièrement les adultes, mais chez certains enfants, ou en particulier à l'adolescence, on met un peu des barrières et on se barricade un peu dans quelque chose de rationnel et on a un peu peur d'ouvrir des portes et de laisser rentrer des mots ou des illustrations, des œuvres qui suscitent de l'émotion, qu'on a peur de pas trop savoir contrôler.
Exactement.
Donc voilà. Moi, je trouve que c'est très riche que tu fais aussi dans ce cadre-là, parce que voilà, c'est libre et en même temps, c'est très enrichissant pour eux et toujours aussi pour nous, parce qu'il y a toujours ces échanges et c'est ça qui nous plaît aussi.
C'est riche en fait en possibilité d'expression en fait. Oui. Ça permet d'apporter cette facilité ou cette possibilité-là, après à eux de s'en saisir ou pas, mais en tous les cas, c'est une porte qui leur est proposée en tout cas.
Et alors, leur réaction par rapport à la question, la poésie, qu'est-ce que c'est pour vous ? Ils ont réussi à mettre des mots sur ça ?
Oui. Je les ai pas, je les ai pas en tête, puis j'ai refermé les enveloppes, mais donc je suis pas allée retourner voir aux enveloppes. Mais c'est vrai, je trouve que le mot qu'elle a dit intimité, Marie-Ange, c'est quelque chose, je pense, qui traverse toute cette approche. Je leur ai lu, j'arrive pas à le retrouver, un petit poème. Alors j'aime beaucoup aussi les poèmes de Karl Norak. Là, j'ai apporté petit poème pour y aller. Et il y avait une histoire de cailloux. Je ne me souviens plus, c'est dommage. Mais je sais que je leur ai apporté un petit sac dans lequel j'avais pris des cailloux que j'avais ramassés. Je leur ai dit que c'était des cailloux que j'avais ramassés dans ma vie, sur des chemins. Et je leur ai fait, à la première séance, chacun piocher un caillou. Ils avaient leur caillou, chacun, qui était en rapport avec ce poème que je venais de lire. Je suis désolée, je ne l'ai pas retrouvé.
Si vous voulez, on fait une pause musicale avec une chanson d'Aldebert. Je ne sais pas si vous connaissez. Mm-hmm. C'est plein de poésie aussi. On écoute « La vie, c'est quoi ?» par exemple, d'Aldebert. Et on se retrouve juste après.
C'est du son qui se parfume.
C'est quoi l'émotion?
C'est l'âme qui s'allume.
C'est quoi un compliment?
Un baiser invisible.
Et la nostalgie?
Du passé comestible.
C'est quoi l'insouciance?
C'est du temps que l'on sème.
C'est quoi le bon temps?
C'est ta main dans la mienne.
C'est quoi l'enthousiasme?
C'est des rêves qui militent.
Et la bienveillance?
Les anges qui s'invitent.
Et c'est quoi l'espoir?
Du bonheur qui attend.
Et un arc-en-ciel?
Un monument au vivant.
C'est quoi grandir?
C'est fabriquer des premières fois.
Et c'est quoi l'enfance?
De la tendresse en pyjama. La vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi.
C'est quoi le remords?
C'est un fantôme qui flâne.
Et la routine?
Les envies qui se fanent.
C'est quoi l'essentiel?
C'est de toujours y croire.
Et un souvenir?
Un dessin sur la mémoire.
C'est quoi un sourire?
C'est du vent dans les voiles.
Et la poésie?
Une épuisette à étoiles.
C'est quoi l'indifférence?
C'est la vie sans les couleurs.
Et c'est quoi le racisme?
Une infirmité du cœur.
C'est quoi l'amitié?
C'est une île au trésor.
Et l'école buissonnière?
N'accroche pas ta Pythagore.
C'est quoi la sagesse?
C'est Tintin au Tibet.
Et c'est quoi le bonheur?
C'est maintenant ou jamais. Ça, mais surtout, c'est toi, c'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là, la vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là, la vie est là.
Voilà, c'était donc Aldebert, La vie, c'est quoi? On revient donc avec Isabelle Zoulalian qui va nous lire peut-être encore quoi? Un poème?
Un poème de Bernard Friot dans un ouvrage assez récent qui s'appelle « Attention, ça pourrait devenir intéressant
». Ça, c'est super.
Voilà. Et effectivement, avec des poèmes qui peuvent s'adresser plus à des plus grands, Bernard Friot est très, très attentionné à avoir aussi des mises en page graphiques au niveau des mots qui sont tout à fait poétiques, on pourrait dire aussi. En tout cas... je cherche mes mots, moi. Ça y est.
Oui, la présentation interpelle aussi.
Oui, il a beaucoup travaillé sur ces questions-là dans son livre Les carnets d'un presque poète, qui propose des dizaines de jeux avec la poésie à pouvoir faire avec les enfants, les ados, les adultes, enfin, plein de possibilités ludiques de création, de lecture, de choses en commun, seules. Voilà. Donc là, c'est attention, et le mot attention est écrit en très gros, il prend la double page tout en haut. Attention, la montre est cassée, ça va sûrement se compliquer. Le coucou suisse est étranglé. L'horloge parlante est dérangée. Depuis longtemps, en vérité. Et la Rolex de monsieur le directeur hoquette désespérément. Attention, ça pourrait devenir intéressant. La prof de maths se réveille à midi moins le quart et prend son train en avance ou en retard. Elle commencera ses cours avec un élève noctambule et trois autres qui se croient encore en vacances. Attention, la météo est vagabonde. Il fera chaud à 0h49, mais à 13h moins 2, mettez un pull et des chaussettes. L'après-midi, en anorak, la nuit, en bikini. Ah, la vie innove. Alors, attention, attention à ne pas rater ça.
Effectivement, ça interpelle, ça suscite l'attention, justement.
Et puis vous disiez, Odile, en parlant d'Adalbert, que lui, il écrivait peut-être une poésie qui est plus pour les adultes et celle-ci plus pour les jeunes. Mais nous, en tant qu'adultes, on s'y retrouve aussi dans cette poésie-là.
Bien sûr, bien sûr.
La poésie, elle est, en fait, elle est universelle. Elle est autant je m'adresse à des plus jeunes que je peux m'adresser à des plus grands. Chacun, il va ressentir ce qu'il a par rapport à ce qui est dit. Et puis, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Donc, autant petit que autant grand, on peut lire ces poèmes-là aussi.
Oui, il n'y a pas que Rimbaud, il y a Rimbaud et Renaud aussi, ces deux types de poésie.
Mais heureusement aussi que Rimbaud a existé.
Oui, oui, bien sûr. Il faut que ce soit accessible à tous, que ce soit facile d'approche aussi, si on ne veut pas décourager.
Et dans la littérature jeunesse en général, il y a souvent plusieurs niveaux de lecture. Et c'est vrai que je pense que les auteurs jeunesse savent s'adresser aux enfants, évidemment, et puis leur donner envie de connaître la suite de l'histoire, etc. Et souvent mettre aussi certains clins d'œil ou références qui font plaisir aux parents et qui leur donnent envie d'acheter le livre, parce que c'est quand même les parents qui achètent les livres des jeunes. Et donc, je pense que les auteurs jeunesse, ils savent jouer sur les deux tableaux, c'est sûr.
Alors, puisqu'on parlait des jeunes de 11-12 ans, ou même les enfants plus jeunes, souvent ils écrivent un journal intime. Est-ce que ça leur donne envie d'écrire de la poésie, vos interventions, de créer
Alors, donc moi, comme on disait, j'interviens dans un cadre bien précis, et donc bon, j'offre des lectures. Je ne travaille pas vraiment sur l'écriture. Enfin, je l'ai fait un petit peu l'an dernier, mais dans le cadre d'un projet qui s'appelait Les Lettres d'A, où les enfants ont créé des poèmes sur les plantes, la nature, les endroits qu'ils aimaient. Après, par rapport au journal intime ou à ce que les enfants peuvent écrire, je pense que dans le cadre de l'école ou de groupes sociaux, c'est pas trop le lieu pour qu'ils écrivent des choses trop intimes, justement. C'est-à-dire que les expériences que j'ai eues où on a fait écrire les jeunes, il faut qu'il y ait une certaine distance et qu'ils écrivent, sur un thème qui paraît un peu éloigné d'eux, voilà, comme l'environnement ou la guerre, ou enfin voilà, un thème assez général. Et parfois, à travers leurs écrits sur ce thème-là, bien sûr qu'ils mettent d'eux-mêmes et qu'ils peuvent exprimer des choses beaucoup plus personnelles. Mais je pense qu'il faut être très prudent, parce que le journal intime, justement, comme on dit, c'est intime et c'est pas forcément fait pour être lu par d'autres, ou en tout cas, on le fait lire à des gens qu'on a sélectionnés, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il faut quand même garder une certaine distance et respecter, justement, cette intimité. Mais il y a vraiment aussi beaucoup de pistes qui qui nous surprennent un peu parfois par aussi la richesse de ce que les enfants peuvent apporter à partir d'une consigne commune ou même d'une structure. Finalement, on arrive à des choses très, très différentes et c'est ça qui est vraiment extraordinaire et qui nous enrichit aussi.
Évidemment, la poésie évolue, j'imagine, en fonction des âges, les choix. La langue évolue aussi beaucoup. Est-ce que les enfants se retrouvent aussi dans la poésie actuelle?
Oui, dans
la façon, dans le langage.
Oui. Bien sûr, pour avoir des petits-enfants adolescents, je pense que les textes de rap... Et les ateliers slam qui peuvent être proposés parfois, ça les touche et c'est une manière... C'est pareil, hein, je pense que les rappeurs dans leur flow, comme ils disent, et dans le vocabulaire qu'ils choisissent, ça leur permet aussi de mettre une distance entre ce qu'ils ont parfois de profond et de souvent très, très dur à exprimer. Mais bon, voilà, on le fait sous une certaine forme assez codifiée. Et du coup, ces choses-là peuvent être dites et entendues sans que ça soit trop lourd ou trop compliqué, quoi.
Et inversement, la rythmique du rap peut être une manière de lire un texte et du coup d'y accéder. Enfin, je leur avais fait une proposition à partir de texte encore, je pense, de Bernard Friot, d'interprétation à leur libre choix de ce poème. Et il y en a un qui m'a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui était extrêmement bien rythmé, qui était... du coup, il s'appropriait ce texte. Voilà.
Merci de ce beau témoignage. Sandrine Berger, le mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est merci beaucoup de nous avoir reçus sur votre antenne avec Isabelle et Marie-Ange. Et puis on espère que ce type de proposition pourra de nouveau avoir lieu, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait c'est très riche en termes d'échanges, ne serait-ce qu'entre nous à ce moment-là, sur ce plateau, et puis ce que vous permettez par vos questions d'explorer aussi. Voilà, c'est très, très important. Donc, merci beaucoup à Fréquence Radio, aux équipes
Fréquence Mistral,
aux équipes de Digne et puis aux équipes de Sisteron qui nous ont soutenus sur ce projet.
Et de Marseille.
Et de Marseille, oui.
Et oui, parce qu'il y a aussi ce projet avec,
Avec
l'école
CM2,
de Volonne. Et,
voilà. Mm-hmm. Mais bon, ça, on en parlera plus tard sur l'antenne de Sisteron.
On mélange pas tout. Voilà. Merci à toutes les trois.
Merci.
Et puis peut-être on peut rappeler les titres des livres et les auteurs, puisque pour se les procurer.
Voilà. Et puis vous mettrez peut-être sur le site
les références.
Voilà, alors les quatre albums qui concourent cette année pour le prix Poésie Lire et Faire Lire qui sera attribué en juin, c'est Monsieur Personne de Johanna Conchero aux éditions Format.
Comment mettre une baleine dans une valise de Guridi aux éditions Côte.
L'invention des dimanches de Gwenaëlle Abolivier et Marie Détré aux éditions du Rouergue.
Et Maison d'Isabelle Simler aux éditions Courtes et Longues. Je vous ai également lu quelques poèmes, quelques textes dans le recueil La poésie Kézako chez Gallimard Jeunesse, Thomas Vino et Marc Majewski. Et Attention, ça pourrait devenir intéressant, 68 poèmes de Bernard Friot aux éditions Milan. Et Petit poème pour y aller de Karl Norat avec des illustrations de Anne Herbeau aux éditions Pastel, collection Pastel de l'École des loisirs.
Merci, donc Isabelle, Marie-Ange et Sandrine, et puis au plaisir de vous recevoir à nouveau sur notre antenne. En tout cas, ça donne envie de lire ce que vous nous avez proposé aujourd'hui, et bien sûr, on recommande à tout le monde d'aller réécouter aussi cette émission qui sera en podcast sur notre site www.fréquencemistral.com. Merci, bonne journée. On se quitte avec Annelise Roche qui nous chante Présence.
C'est camouflé derrière un rire, c'est juste là y a qu'à cueillir. C'est camouflé derrière un rire, c'est juste là y a qu'à cueillir. C'est dans les branches. Un petit bonheur passager, comme un invisible baiser. Un petit bonheur passager, comme un invisible baiser. Ça tire sur la manche, c'est un espoir fort comme les vents. C'est un sourire sans rien avant. C'est un espoir fort comme les vents. C'est un sourire sans rien avant. La vérité dans un silence, c'est la lumière après l'orage qui joue à percer les nuages. C'est la lumière après l'orage qui joue à percer les nuages. Discrète providence, c'est un miracle omniprésent, si simple qu'on l'oublie en passant. C'est un miracle omniprésent, si simple qu'on l'oublie en passant. Noyé d'indifférence, c'est caché dans les petites choses, comme une caresse quand tout explose. C'est caché dans les petites choses, comme une caresse quand tout explose. Une évidence, c'est un hasard qui n'en est pas, un rendez-vous sans agenda. C'est un hasard qui n'en est pas, un rendez-vous sans agenda. Un clin d'œil en avance, c'est là juste au bord du sourire, un amour qu'on ne peut décrire. C'est là juste au bord du sourire, un amour qu'on ne peut décrire. En abondance, un pas rassurant sur le sentier, silencieux marchant à côté. Un pas rassurant sur le sentier, silencieux marchant à côté. Une présence derrière un rire, c'est juste là y a qu'à cueillir. C'est camouflé derrière un rire, c'est juste là y a qu'à cueillir. C'est camouflé derrière un rire, c'est juste là.